Bonjour Xavier, et justement Jacques Toubon, Xavier veut s'exprimer sur la surveillance, mais de sa manière à lui. Et d'ailleurs, vous avez compris quelque chose, enfin,
je crois.
Ai-je envie de dire, Xavier ?
Je crois, merci. Je crois, ce week-end, j'ai binge-watché, donc regardé d'un trait comme on avale d'un trait une bouteille d'alcool pour atteindre plus vite l'ivresse. Donc j'ai binge-watché la saison 3 du Bureau des Légendes. C'était un peu dommage, il faisait beau, mais ça m'a permis de comprendre quelque chose que je vais essayer d'exprimer le plus clairement possible.
J'ai fait ça il y a 3 semaines, je crois, pendant un week-end très ensoleillé, moi aussi,
vous
voyez.
Okay. C'est pareil. Bon, donc on l'a pas fait ensemble, Jacques.
Non.
Le Bureau des Légendes, c'est la série de Canal, plus qui raconte la vie du département de DGSE, chargé de former des clandestins et les envoyer là où c'est nécessaire, département surnommé Bureau des Légendes, car être clandestin, c'est se créer et vivre sous une légende. Bien sûr, il s'agit d'une fiction, mais son créateur Éric Rochant tente de coller le plus possible aux méthodes de la DGSE, comme il l'avait fait avec celle du Mossad, des services secrets israéliens, dans son formidable film Les Patriotes. Ainsi, les gens de la DGSE, interrogés sur la série, le disent, ça ressemble à la fois beaucoup et pas du tout à leur quotidien. Tout au long de la série, le rôle des technologies est majeur. Mise sur écoute des téléphones portables, utilisation de canaux particuliers ou de combines pour communiquer, virus informatique sur une clé USB, IMSI catcher, hein, vous savez, ces valises qui permettent d'aspirer tous les numéros et conversations des téléphones dans un rayon de quelques centaines de mètres. J'aurais peine à recenser tous les outils auxquels ont recours les personnages. C'est sans doute un reflet de ce qu'est devenu le renseignement, mais là aussi la question du réalisme titille constamment. Je me souviens avoir discuté avec un des scénariste de la série, lui avait dit « Ah, mais c'est génial cette histoire du frère parti faire le djihad en Syrie qui communique avec sa sœur restée en France en discutant sous pseudonyme dans un forum de discussion pour amateurs de chiens de race. Vous avez trouvé où cette histoire ?»« On l'a inventée », m'a-t-il répondu. Bref, comme le reste, la part technologique de la série est sujette à caution. Mais peu importe que tout soit vrai ou pas, ce que j'ai compris en la regardant n'a pas de rapport direct avec le réalisme. Ce que j'ai compris, c'est que la technologie de surveillance est jouissive. Utiliser un téléphone comme micro pour entendre tout ce qui se passe, voir les petits points des téléphones connectés au sein de la communauté européenne ou des commissions européennes apparaître sur un écran, pouvoir contacter secrètement quelqu'un en passant par les profils d'amis d'amis sur Facebook, etc. Tout cela provoque chez le spectateur une forme de jouissance. Jouissance dont la force est telle qu'elle fait tomber toutes les barrières morales et politiques qu'on peut avoir au recours à ces techniques. Ainsi, quand je regarde le Bureau des Légendes, je vis dans un état de dissonance cognitive. Alors que je suis averti sur ce que ces technologies peuvent faire aux libertés individuelles quand elles sont utilisées à mauvais escient, je jouis de les voir en action. Oh oui, joli informaticien qui dit oui à tout, glisse ton petit micro où tu veux, mets à bas toutes mes barrières morales et politiques. Tel est mon état quand je regarde le Bureau des Légendes.
Vous n'êtes pas là pour tout dire, néanmoins.
Je pensais être seul, mais je pense qu'il faut tout dire, Guillaume. Je pensais être le seul à vivre cela.
On en débattra hors antenne.
Pour la raison qui vient. Je pensais être seul à vivre cela quand j'ai découvert que le philosophe Frédéric Gros, spécialiste de Michel Foucault, relevait lui aussi ce qu'il appelle des points de jouissance dans les techniques de surveillance. Chacun est surveillé, dit-il, mais peut jouir aussi du pouvoir de surveiller les autres. Je suis prêt à être surveillé si, dans le même temps, j'ai les moyens techniques de surveiller ma compagne ou mes enfants. Ainsi donc, ce serait dans la dialectique complexe entre surveillant et surveillé et le fantasme d'une puissance réversible que cela se jouerait. Surveiller et jouir, comme l'écrivait l'anthropologue Gail Rubin en paraphrasant Foucault. Il ne s'agit évidemment pas d'incriminer la fiction d'utiliser la puissance jouissive de ces techniques de surveillance. Après tout, c'est une des fonctions de la fiction que de nous procurer du plaisir avec ce qui nous ferait horreur dans la vie. En revanche, si on est d'accord avec Frédéric Gros et Michel Foucault, on peut se demander si ces points de jouissance qui s'activent quand on évoque la surveillance ne sont pas une des raisons pour lesquelles il est si compliqué de mobiliser l'opinion publique et les représentants politiques sur les dangers de ces technologies quant à leurs usages par les services, quand leur usage par les services n'est pas contrôlé au plus près. Ce principe de jouissance n'est-il pas, en plus du désir de sécurité, une des raisons pour lesquelles les arguments rationnels, les faits, les discours de principe sur la liberté individuelle peinent à convaincre? Et même, soyons fous, ne peut-on pas postuler que dans l'élargissement de la surveillance à chaque loi antiterroriste ou sur le renseignement, il n'y a pas comme un reflet de cette jouissance possible? Mais alors, si cette hypothèse est valable, que fait-on? À quel type de discours et d'arguments peut-on recourir pour alerter sur les dangers de tout excès en matière de surveillance? J'avoue ne pas avoir de réponse à cette question, même si identifier les pulsions à l'œuvre dans les politiques publiques me semble un premier pas toujours nécessaire.
Un mot, Jacques Toubon.
Premièrement, il faut savoir que, malheureusement, on a le sentiment, et en tout cas les services spécialisés ont le sentiment, que les terroristes sont, dans tout ce que vous avez dit sur l'utilisation des nouvelles technologies, encore un peu en avance sur nous. C'est pour ça que tout à l'heure, notamment, je disais qu'il faut s'attaquer absolument au cryptage. Ça, c'est une vérité. Deuxièmement, ce que nous défendons, nous, le défenseur des droits, en comprenant très bien quelles peuvent être les nécessités vitales de la lutte contre le terrorisme, et notamment du renseignement, c'est qu'il doit toujours y avoir un recours, et un recours effectif pour les personnes qui sont mises sous surveillance et pour les personnes. Et c'est ce sur quoi nous nous sommes battus quand la loi renseignement a été discutée. Et nous constatons aujourd'hui, malheureusement, que le système qui a été mis en place avec la Commission nationale technique et puis la formation particulière du Conseil d'État est un système beaucoup trop étroit. Voilà, je crois qu'il faut que dans les technologies, nous soyons plus puissants encore, mais quand il s'agit des droits et du droit, que l'on puisse, devant tout simplement des tribunaux, et notamment le Conseil d'État en l'occurrence, plaider sa cause plus largement.